L'intitulé de cette prédication, c'est Providence ou réponse à notre foi concernant le réveil. L'Église, depuis le mois d'octobre de l'année passée, s'est engagée dans une démarche de rechercher un réveil à travers les rencontres du mercredi soir. A-t-elle raison de le faire ou pas? C'est la question. That's the question. L'ensemble de l'Église ne se sent pas encore concerné, ce que je comprends, et cela mérite donc un éclaircissement, ou tout au moins un éclairage de foi. Pierre, pour citer dans la deuxième épître, dira « J'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements ». Donc l'apôtre Pierre, vous voyez, ne se prive pas d'essayer de réveiller les chrétiens. Mais au juste, de quelle sorte de réveil s'agit-il? Il faut bien définir le réveil. Qu'est-ce que donc le réveil et qui doit être réveillé? Pour certains, ce mot ne dit plus rien et fait même passer sur leurs lèvres un sourire sceptique. On a tellement parlé de réunions, de réveil, organisé des campagnes, des ligues de réveil. Il y a même, pourrait-on dire, des spécialistes du réveil. Le réveil que l'on demande, que l'on cherche et qu'on le recherche et qui ne vient pas, on n'y croit plus. Pour d'autres, c'est un mot magique qui signifie irruption de dons extraordinaires, de puissance, de manifestations miraculeuses, de feu du ciel qui vient animer les chrétiens, qui font désormais tout plier devant la prédication de l'Évangile. Certains pensent même qu'il y aura un réveil presque obligé avant le retour du Seigneur. Alors de quel côté notre Église, le PEA, penche-t-elle? Du côté des sceptiques ou du côté des magiques? Ou y aurait-il une troisième voie? Le réveil dont il est question n'est pas d'ordre naturel du sommeil, mais de l'ordre spirituel. Ce n'est pas le fruit d'un effort, mais celui d'une prise de conscience. On ne réveille pas des morts, on les ressuscite, on les fait renaître. Vous connaissez Jean 3:3 quand Jésus parle à Nicodème. Il faut renaître pour entrer dans le royaume de Dieu. L'homme irrégénéré, avec ou sans religion, est mort pour Dieu. Mort dans ses fautes, dans ses péchés. Dans ce cas, ce n'est pas un réveil, mais un travail de Dieu dans les cœurs des hommes pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. On appelle cela la nouvelle naissance. Et le régénérateur est le Saint-Esprit, et nous sommes ouvriers avec lui. Le Saint-Esprit peut agir sans nous, bien sûr, mais avec nous également, puisqu'il est dit « vous êtes mes témoins ». Témoins, c'est quelqu'un qui participe à témoigner. De sorte que nous pourrions dire que chaque enfant de Dieu et chaque véritable église chrétienne normale, c'est-à-dire éveillée, voit toujours autour de soi de véritables conversions se produire. C'est ce qu'on appelle l'enfantement spirituel. Ces conversions cessent d'avoir lieu lorsque les chrétiens deviennent infidèles et s'endorment. Ce sommeil ne voudra peut-être pas dire inertie complète ou cessation de toute activité, car le dormeur est souvent agité. Ce sera du somnambulisme spirituel ou une action inconsciente, saccadée, dangereuse, anormale et stérile. C'est aux chrétiens que Dieu s'adresse quand il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ resplendira sur toi ». Éphésiens 5, 14. Dans Apocalypse, chapitre 3 également, on voit que le Seigneur frappe à la porte du chrétien pour venir souper et dîner avec lui. Le réveil, c'est donc la réponse à la voix du Père qui appelle son enfant endormi. C'est le retour à une vie consciente, l'épanouissement des illusions spirituelles, la fin des rêves. C'est l'attitude demandée par Jésus, avoir les reins sains et les lampes allumées. Si les appels au réveil contenus dans la parole de Dieu sont en petit nombre, ils sont clairs et précis, et nul ne peut se méprendre sur leur signification. Ils sont tous adressés à des enfants de Dieu. Je cite Romains 13, versets 11 et 12. « C'est ici l'heure de nous réveiller du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous. La nuit est avancée, le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de la lumière. » Paul dira aussi dans les Corinthiens, Corinthiens 15, 34, « Réveillez-vous pour vivre justement. » Et dans Éphésiens aussi, « Vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Réveille-toi, toi qui dors. » Rejeter les œuvres des ténèbres, vivre justement, marcher dans la lumière, ne participer à aucune manière au mal, voilà le programme d'un chrétien éveillé. Dans l'éveil, l'action est salutaire, bonne, saine, normale. L'Esprit de Dieu anime. Animer, c'est vraiment un sens de l'action. Il anime le chrétien. Point de recherche de soi-même, mais une stricte fidélité dans les petites choses comme dans les grandes. Ce qui importe avant tout, c'est le nom de Dieu, qu'il soit sanctifié et glorifié. Le réveil des chrétiens, c'est encore, et ce doit être pour les communautés chrétiennes, le retour à une saine doctrine et au seul principe ecclésiastique posé par les apôtres, en un mot, à une fidélité biblique stricte et entière. Donc, j'en conclus à partir de ces quelques réflexions que le réveil est une responsabilité de l'Église. Le réveil spirituel devait être l'état normal du chrétien de l'Église, et si le réveil nous est refusé, c'est qu'il y a des idoles dans nos cœurs, en cachette, très souvent. Nous mettons notre confiance dans autre chose que Dieu seul. J'aimerais avec vous regarder un instant ce que nos prédécesseurs, qui ont connu des réveils, ont à nous dire. Je prendrai l'exemple de Jonathan Goforth, que vous voyez ici à l'écran, qui identifiait clairement le péché non confessé parmi les chrétiens comme l'un des principaux obstacles empêchant à Dieu d'envoyer un réveil. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, je vous livre juste un instant, l'expérience que j'ai faite en 1989, c'était au moment où on avait des enseignements sur la délivrance par François Didier Laurent. Dans une des réunions, d'un seul coup, il y a une voix prophétique qui s'élève de l'Assemblée et qui dit « Tu as encore un non-pardon dans ton cœur ». C'était dit comme ça, à la cantonade, comme on dit. Mais à cet instant, cette voix a retenti comme si le ciel s'ouvrait et Dieu me parlait directement, à moi. Le soir, la nuit, ça m'a travaillé. Tu as un non-pardon dans ton cœur. Et le matin, avant d'aller au travail, parce que je travaillais à l'époque à l'aérospatiale et j'avais une staff meeting le matin, on était une douzaine, avoir tous les lundis matins un meeting avec notre chef. Donc vers 6h30 du matin, je suis allé rencontrer le frère Laurent pour confesser ce non-pardon devant lui comme témoin. Il a prié pour ma délivrance et des esprits sont partis de moi et le Saint-Esprit m'a inondé de son amour, mais tellement fort que en un instant, j'ai expérimenté quelque chose d'exceptionnel dans ma vie. Le Saint-Esprit était tellement fort, tellement présent dans ma vie, après avoir fait cette confession, que je pensais léviter à 2 mètres du sol et que mon corps décollait du sol. La présence de Dieu était si forte, et je devais me tenir à la table dans la staff meeting pour me rassurer que les gens autour de moi ne me voyaient pas, qui me voyaient bien assis sur ma chaise et pas en train de léviter, comme j'étais effectivement dans cet état spirituel. Cela a duré toute la journée et m'a porté toute la semaine. J'étais dans un état de réveil. Voilà ce qu'une confession de péché, de non-pardon, peut entraîner comme conséquence. Une expérience de réveil spirituel que j'ai expérimentée à ce moment-là. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que la repentance est importante. Mais plus que la repentance, dans ces réunions que nous faisons, nous cherchons le réveil. La repentance est nécessaire pour changer, bien sûr, de mentalité et être approuvé de Dieu, ce qui a été pratiqué par Jean-Baptiste, Jésus et ses disciples, qui ont invité à la repentance avant le baptême. Mais plus que cela, il faut persévérer dans cette attitude et se maintenir dans une repentance continuelle. Car notre chair nous pousse sans arrêt à compter sur nous-mêmes et retomber dans la direction opposée de Dieu, puisque notre chair est opposée à l'esprit, et donc c'est tout simplement une attitude de disciple que nous recherchons et que nous voulons qu'il nous réveille. C'est là que les hommes qui nous ont précédés peuvent nous éclairer pour cette compréhension du réveil. Je renvoie au quadrilatère wesleyen qui parle de tradition qui est nécessaire pour éclairer la foi. Donc je vais essayer de le faire ce matin au travers de ce personnage qui est Jonathan Goforth. Dans Hébreux 12, il est dit « Regardons à la nuée de témoins qui nous ont précédés et qui ont tous cherché le réveil et l'ont trouvé. » Considérons donc maintenant ce témoignage. Alors Jonathan Goforth est un Canadien, missionnaire presbytérien, qui a quitté l'agriculture dans laquelle il était impliqué pour étudier au Knox College de l'Université de Toronto, où il obtient son diplôme de théologie en 1886. Donc c'est juste avant le XXe siècle. Il sera missionnaire en Chine en même temps que Hudson Taylor. Alors Hudson Taylor, vous le connaissez peut-être, il est très connu, qui lui était britannique, baptiste britannique. Et donc Goforth a été envoyé dans la province de Hunan, en Chine, où il annonce l'évangile et doit se développer et voit se développer un réveil spirituel de grande ampleur. Ce n'était pas un pentecôtiste, hein, c'était un presbytérien. Je le signale pour la fin. Alors Hudson Taylor, qui a évangélisé la Chine avec une puissance extraordinaire, aujourd'hui encore il est très vénéré en Chine, je crois même qu'ils ont fait... Non, pas lui, c'est pas lui. Voilà ce qu'il lui a dit un jour à Jonathan Goforth, qui le suivait de quelques années, hein, était plus jeune. Il a dit « Vous devez avancer à genoux. Vous devez avancer à genoux. » Jonathan Goforth appliqua fidèlement et avec ferveur à suivre ce conseil tout au long de son travail missionnaire en Chine. Cependant, après 13 années de prières consacrées et de prédications fidèles, et après ce que la plupart qualifieraient de ministère réussi, Goforth en vint à un point d'insatisfaction où son âme ne trouvait point de repos. Ce fut à cette période qu'un groupe de chrétiens en Angleterre commença à distribuer des tracts sur le réveil du Pays de Galles en 1904. Goforth fut profondément interpellé alors qu'il lisait ses récits. Une nouvelle idée, une nouvelle conception de Dieu, le Saint-Esprit commença à faire jour dans son cœur. Il se livra donc à davantage de prières et à davantage d'études de la parole. Et Goforth a été conduit, par une vision renouvelée, de voir la puissance de l'effusion du Saint-Esprit qui opère des miracles. Voilà ce qu'il déclare un jour, il dit « Frère, l'Esprit de Dieu est toujours avec nous. La Pentecôte est à notre portée. Si le réveil nous est refusé, c'est qu'une idole est encore adorée en cachette. C'est que nous mettons notre confiance dans des plans humains. Nous nous refusons à croire cette vérité immuable. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Un missionnaire lui dit un jour, comme en guise d'excuse, « Ah, j'ai toujours désiré le réveil, mais ma station missionnaire est si loin de tout que je n'ai pu y faire venir un évangéliste. » Comme si l'Esprit de Dieu n'agissait que par des serviteurs privilégiés. Avec Jonathan Goforth, nous affirmons que le réveil peut avoir lieu quand et où nous voulons. Le prince des évangélistes. Le prince des évangélistes, Finet, croyait que tout groupe de chrétiens qui fait de cœur et sans réserve la volonté de Dieu pouvait voir un réveil. Moody affirmait constamment que la Pentecôte n'était que le spécimen de ce que voulait faire l'Esprit de Dieu. Goforth affirme, nous avons vu dans nos propres pays européens, puisqu'il venait de temps en temps en Europe, des auditoires remués, exactement comme ceux de la Chine. Il est vrai que cela prend généralement plus de temps, mais qu'un jour, une quinzaine ou des mois soient nécessaires, le principe est le même, n'importe quel groupe de chrétiens qui le désire peut recevoir la pleine bénédiction de la Pentecôte. En lisant la parole de Dieu, il nous semble inconcevable que le Saint-Esprit veuille retarder son œuvre, l'œuvre de la venue de Jésus. Nous pouvons être sûrs que quand il ne peut pas déployer sa puissance, c'est toujours parce que l'homme n'a ni la foi ni l'obéissance voulue. Si Dieu, le Saint-Esprit, ne glorifie pas Jésus dans le monde aujourd'hui, comme à la Pentecôte, c'est nous qui sommes à blâmer. Après tout, qu'est-ce que le réveil, sinon l'Esprit de Dieu possédant la totalité de nos vies ? Le réveil est donc toujours possible quand l'homme se donne entièrement à Dieu. La résistance au Saint-Esprit est le seul péché qui puisse empêcher le réveil. Mais sommes-nous prêts à recevoir le Saint-Esprit dans toute sa plénitude ? Apprécions-nous à sa juste valeur le don et le donateur ? Voulons-nous payer le prix d'un réveil par le Saint-Esprit ? C'est là qu'intervient le prix de la prière. L'histoire des réveils montre que tous les réveils ont été déclenchés par la prière. Cependant, n'est-ce pas justement là que beaucoup d'entre nous tremblent et hésitent devant le prix à payer ? La Bible ne dit pas grand-chose de ce qui s'est passé dans la chambre haute entre l'Ascension et la Pentecôte, parce qu'ils étaient tous réunis en attendant la venue de cette puissance dont Jésus a parlé. Mais nous sommes certains que les disciples étaient avares des minutes qu'ils ne passaient pas à genoux. Que d'interdits, que de scories, que de déchets à faire disparaître. Le miracle de la Pentecôte fut la meilleure preuve de l'œuvre de purification qui s'était faite dans la chambre haute. Nous savons que toutes les effusions du Saint-Esprit ont toujours été étroitement liées à la prière. Dans Actes chapitre 4, verset 31, il est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Les grands mouvements de la réforme ont été en grande partie les résultats de la prière. On dit de Luther qu'il obtenait de Dieu en priant tout ce qu'il voulait. Marie Stuart, la reine d'Écosse, craignait plus les prières de John Knox que toutes les armées de la reine Élisabeth d'Angleterre. L'œuvre magnifique du Saint-Esprit qui transforma les Moraves, donc les Moraves c'est en Moravie, côté de la Bohême, en dessous de la Pologne et au-dessus de l'Autriche, eh bien, toutes les discordes ont été remplacé à ce moment-là par un grand amour qui vint d'eux et qui fit d'eux la plus grande force missionnaire du monde. Cette œuvre eut sa source dans la prière. Y a-t-il jamais eu dans l'histoire de l'Église, écrit l'évêque Hasse, une réunion de prière qui a duré 100 ans ? Eh bien, les Moraves la commencèrent à Herrnhut, Vous voyez ici le château de Hernhut, du duc de Zinzendorf, du comte de Zinzendorf, en 1727. Ils l'appelèrent l'intercession d'une heure. Se relayant jour et nuit, un frère ou une sœur était toujours en prière. Je rappelle que c'est le sens de la maison de prière que nous voulons créer ici. L'objet principal des requêtes des Moraves était l'œuvre de Dieu pour l'Église. Vous savez que la prière mène toujours à l'action, et non pas le contraire. Moi, j'ai connu des réunions de prière d'attente du réveil. Les gens qui le faisaient étaient très sincères, mais il y a toujours l'action derrière la prière. Parce que Dieu agit, c'est un Dieu d'action. Dans le cas du réveil morave, cette prière créa un désir ardent chez les Moraves de porter le salut de Christ aux païens. Ce fut le commencement des missions modernes. De l'église d'un petit village, il sortit en 25 ans plus de 100 missionnaires. Nous ne trouvons nulle part et à aucune époque aucun mouvement qui égale celui-là. Mais pourquoi le mouvement morave n'aurait-il pas aujourd'hui sa contrepartie ? Pouvons-nous concevoir que l'Esprit de Dieu se lasse ? Nous pouvons être sûrs que la bénédiction nous attend si nous consentons seulement à nous agenouiller et à la recevoir. Voyons l'époque de Wesley au XVIIIe siècle. Ce réveil, qui évita à l'Angleterre une révolution sanglante comme celle qu'on a connue en France, le trait le plus saillant du réveil wesleyen fut l'accent que ses responsables et pasteurs mirent sur la prière. Leurs habitudes étaient de prier chaque matin de 4 à 5 heures et de 5 à 6 heures le soir. Finney, aux États-Unis, comptait plus pour produire le réveil sur les prières de Nash et de Clary que sur sa propre irrésistible logique. Les prières de Finney étaient soutenues par deux trésors cachés de Dieu. C'étaient les intercessions cachées et puissantes du Père Nash et d'Abel Clary. Abel Clary se convertit à peu près à la même période que Finney et eut un tel poids de prières qu'il ne pouvait pas beaucoup prêcher. Tout son temps et sa force étaient consacrés à la prière. Il frémissait, il gémissait, à l'agonie, incapable de se tenir debout sous ce poids. Et après la mort de Clary, Finney découvrit le journal de prière de Clary. Et Finney trouva que l'ordre exact du poids mis sur le cœur de Clary correspondait à l'ordre de la bénédiction répandue par son propre ministère d'évangéliste. Concernant le père Nash, il mena une vie d'intercession presque ininterrompue. Il s'unit à Finney et il tenait une liste de prières et fut sans aucun doute le secret d'une grande partie du merveilleux succès de Finney. Il ne prêchait pas souvent et n'allait pas aux réunions, mais il restait dans sa chambre et au milieu des bois, luttant avec Dieu, dans une puissante prière. Et souvent, avant le lever du jour, les gens entendaient le Père Nash à près de 700, presque un kilomètre dans les bois, ou alors il priait dans une église, et la sensation de la présence de Dieu était écrasante. L'Église doit faire quelque chose de plus qu'apprécier l'histoire d'hommes comme Charles Finney, le Père Nash, Abel Clary. Si nous avons l'intention d'expérimenter le réveil, nous devons, nous aussi, nous repentir et pratiquer les vérités qu'il proclamait. Vérité d'une vie sainte et pure, vérité d'une intercession cachée et d'un amour pour Jésus qui ne fait pas de compromis. Nous sommes tellement habitués à l'état laodicéen. Alors c'est quoi l'état laodicéen de l'Église ? C'est Laodicée qui était représentée comme l'Église de l'illusion. Ni froid, ni bouillant, mais tiède. Nous sommes tellement habitués à cela, à la tiédeur, que l'influence toute puissante de la prière au temps de Finney nous stupéfie. Pensez un peu. 40 pasteurs et missionnaires furent appelés par Dieu et envoyés dans son champ comme résultat des prières faites pendant un réveil uniquement dans l'école supérieure de Rochester, aux États-Unis. En 1857, Finney voyez 50 000 âmes par semaine se décider pour Dieu. Dans beaucoup de villes, on ne trouvait pas assez de grandes salles pour y tenir les réunions de prière. Ce fut alors que commença celle de Fulton Street à New York, dans une salle annexe d'une église. En quelques semaines, l'église elle-même était devenue trop petite et le surplus des auditeurs remplit les églises voisines. En 1858, Spurgeon, qui est très connu aux États-Unis aussi, réunit sa grande congrégation et lui dit: l'Esprit de Dieu sauve en ce moment des multitudes d'âmes aux États-Unis. Comme Dieu ne fait exception de personne, nous allons lui demander, par la prière, les mêmes bénédictions ici. Et la réponse fut le réveil de 1859. White Moody, le grand évangéliste, assure-t-on, n'acceptait pas d'invitation de tenir une série de réunions sans faire promettre qu'elle serait préparée par la prière. Au sud du pays de Galles, peu avant le grand réveil de 1904, 300 réunions de prière avaient été fondées. En fait, le pays de Galles tout entier devint une immense réunion de prière. Et le résultat fut qu'en 2 mois, 70 000 âmes s'étaient tournées vers Dieu. Reuben Archer Touré, en Inde, à Calcutta, en 1902, c'est à peu près tous la même époque, 2 missionnaires avaient entendu le docteur Touré parler sur la prière. Ces missionnaires furent tellement frappés qu'en rentrant dans leur paroisse à Kassa, leur grand sujet fut la prière. Et le résultat ne se fit pas attendre. Au printemps 1905, les Kassiens priaient tous. Et le réveil était inévitable. En quelques mois, 8 000 convertis furent ajoutés à l'église dans cette partie de l'Inde. En Corée, le grand réveil de Corée en 1907 fut le fruit de la prière. J'aimerais, sans prolonger beaucoup plus tout ce panégyrique qui pourrait être très long, rappeler que John Paul Jackson, ce prophète, évoque le combat spirituel déclenché par la prière et qui permet un déblocage spirituel sur un lieu ou une région donnée. Cet enseignement se trouve dans Daniel, chapitre 10, verset 12, et je lis la parole de Dieu. « Un messager angélique m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des chefs, des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près du roi de Perse, etc. etc. » Donc on a là une description d'un combat spirituel du deuxième ciel. Alors, quels sont les secrets du réveil? Eh bien, attachons-nous à la parole. Ces secrets, un grand évangéliste posait la question et il dit qu'il n'y en a pas comme par magie, mais ça vient toujours en réponse à la prière, à l'amour de la parole et à l'élimination des idoles. Nous affirmons aussi, que nous ne pouvons pas compter sur un réveil général, encerclant le monde entier par le Saint-Esprit, à moins de revenir tout d'abord à la parole. Les doutes émis sur la parole de Dieu déshonorent absolument son auteur. Quelle douleur doit être la sienne quand il voit si peu estimé par les hommes le livre qui seul rend témoignage à son Fils. Si la Bible n'est pas pour nous, en toute sincérité, la parole même de Dieu, nos prières sont vaines. Il n'y a jamais eu de réveil là où n'existaient pas des hommes et des femmes croyant de tout leur cœur à la parole de Dieu et en s'appuyant sur ses promesses. L'épée de l'Esprit, qui est aussi une image de la parole, est la seule arme qui ait jamais été utilisée avec puissance dans le réveil. La parole de Dieu est toujours pour celui qui croit en ce qu'elle dit, une épée, un feu, un marteau qui brise le roc. Dès que Luther eut traduit la Bible en allemand, l'Allemagne fut perdue pour Rome. Moody n'avait pas beaucoup d'instructions, mais il connaissait sa Bible. Il est certain que le monde n'a jamais connu et ne connaîtra peut-être jamais son égal comme gagneur d'âme. Jonathan Goforth, pour revenir à lui, il témoigne en disant « Lorsque j'étais étudiant à Toronto, ma seule arme dans les prisons et les bas-fonds que je visitais était la Bible. En Chine, j'ai souvent fait 35 à 40 allocutions par semaine, qui n'étaient somme toute que des paraphrases de la parole de Dieu. Je puis affirmer que pendant mes 40 ans et un an de ministère, je ne me suis jamais adressé à un auditoire de Chinois sans avoir la Bible ouverte devant moi. Cela me permettait d'affirmer « Ainsi dit l'Éternel ». Croyant que la simple prédication de l'Évangile suffisait pour amener les âmes à Christ, j'ai toujours agi en conséquence. Je n'ai jamais été déçu. Mon collègue chinois, un des hommes les plus consacrés que j'ai jamais connus, fut sauvé d'une vie de péché et de vice par la première allocution de l'Évangile qu'il m'entendit prononcer. Ce que je regrette le plus en atteignant mes 70 ans, dit Jonathan Goforth, c'est de ne pas avoir consacré plus de temps à l'étude de la Bible. Cependant, en moins de 19 ans, j'ai lu tout le Nouveau Testament chinois 50 fois. Il y a quelques années, un monsieur qui était à la convention de Keswick en Angleterre, alors c'est une convention très connue de tous les ministères mondiaux pentecôtistes en Angleterre, qui existe toujours d'ailleurs à Keswick, il est pris un tel amour pour la Bible qu'il l'a lu ensuite 12 fois en 3 ans. Là, vous pensez peut-être que c'était un homme qui n'avait que ça à faire. Nullement, c'est un ouvrier qui partait chaque matin à 5h30 à son usine. Vous savez, Jonathan Goforth, il évoque le fait que les lettrés chinois, sous la dynastie Manchu, devaient savoir par cœur leurs grands classiques. Et comment les lettrés des pays soi-disant chrétiens traitent-ils le plus grand des livres, le livre des livres ? Il y a 30 ans, l'idéal d'un missionnaire, dit-il, était de connaître assez sa Bible pour ne pas avoir besoin de transporter avec lui sa concordance. L'indifférence pour la parole de Dieu que professent actuellement beaucoup de missionnaires viendrait-elle de ce qu'ils ont découvert un meilleur moyen de répondre aux besoins spirituels du monde pécheur ? On y reviendra tout à l'heure. Troisième secret du réveil, c'est glorifier Dieu et glorifier son Fils, Jésus-Christ. La grande raison de la recherche du réveil doit être le désir d'exalter dans nos cœurs Jésus-Christ comme roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous l'avons chanté tout à l'heure, ce chant magnifique. Le Christ, vous savez, peut-être comparé, alors ça ne vient pas de moi, c'est Jonathan Goforth, qui le compare au mont Everest, vous savez, qui est en Chine, qui domine l'immense plaine aux alentours. Si nous voulons qu'il habite en nous, il faut qu'il prenne toute la place. Et toute idole doit être détruite. Isaac, le bien-aimé, doit être placé sur l'autel. Il faut refuser au moi jusqu'à la moindre satisfaction. C'est alors seulement que nous pouvons voir s'ouvrir devant nous les plus vastes horizons. Une petite histoire qui est intéressante, qu'il évoque dans ses mémoires. On raconte que Mahmoud, c'est un grand conquérant mahométan, détruisit au fur et à mesure de ses victoires dans le nord de l'Inde toutes les idoles qu'il rencontrait sur son chemin. Et il arrivait dans la ville de Gugirat, qui contenait une idole vénérée tout spécialement par les habitants. Et les notables vinrent trouver le vainqueur et le supplièrent d'épargner au moins ce dieu-là. Il lui abandonnait tous les autres, mais si Mahmoud détruisait celui-là, il préférait mourir. Ils plaidèrent leur cause avec une telle intensité que pendant un instant, le cœur du général fléchit. Il lui semblait par trop cruel de priver ces pauvres gens de ce qu'ils aimaient mieux que leur vie. Mais il se souvint qu'il avait fait serment de détruire toutes les idoles. Alors la volonté d'Allah était absolue. Il se fit porter un marteau et d'un coup terrible, il fondit l'idole en deux. À sa stupéfaction, les habitants de la ville en avaient fait une cachette. Et ils espéraient que le vainqueur ne les trouve pas. C'était un flot de bijoux et de pierres précieuses qui en est sorti. Donc, s'il avait laissé l'idole, cela leur permettrait à leur insu de sauver leur richesse. Voyez la perte qu'aurait subi le vainqueur s'il l'avait épargné. On tient souvent nos richesses dans les idoles que nous cachons. J'aimerais évoquer à cet endroit-là aussi, comme il l'a fait lui, un événement qui l'a beaucoup marqué. Une conférence mondiale à Édimbourg, qui a eu lieu en 1910, était une conférence où tous les missionnaires, c'est la première fois dans l'histoire que ça arrivait, tous les missionnaires du monde entier se sont réunis à Édimbourg en 1910. Et c'était une occasion unique qui était donnée aux dirigeants des missions et des églises d'abandonner leurs idoles ecclésiastiques, enfermées dans l'église, et d'entrer en contact avec les richesses insondables de Christ. Il n'y eut jamais, en effet, dans les temps modernes, une réunion qui ait suscité autant d'espoir que celle-ci. Des leaders religieux qui venaient de toutes les parties du monde. Plusieurs espéraient qu'une ère nouvelle allait s'ouvrir pour les missions. Le dernier sujet, le dernier jour, était la base arrière, c'est-à-dire l'Église. Comment allait se positionner l'Église par rapport aux missions ? On aurait pu penser que les églises des pays chrétiens, fortifiées par le Saint-Esprit, allaient envoyer des hommes qualifiés comme Paul et Barnabas en mission. Avec de telles énormes ressources en argent, en vocation, le monde allait être évangélisé au cours d'une seule génération. Hélas, dit Goforth, qui assistait à cette réunion, ce n'était qu'un rêve. Je n'ai jamais éprouvé, dit-il, une plus vive déception que ce jour-là. De tous ceux qui parlèrent à cette grande réunion, trois seulement mirent l'accent sur le Saint-Esprit comme étant le grand facteur de l'évangélisation du monde. À écouter les discours prononcés ce jour-là, on était obligé de conclure que pour donner l'évangile aux païens, il suffisait d'avoir une meilleure organisation, des moyens matériels plus perfectionnés, en plus grand nombre de vocations masculines et féminines. Il y avait pourtant des symptômes dans cette assemblée qui faisaient prévoir que quelques étincelles de plus auraient suffi pour produire une explosion. Mais non, il en aurait trop coûté de mettre à bas l'idole de l'Église ecclésiastique, qui comporte des moyens déployés, tout sauf la prière. La lecture de la parole et une consacration totale à Jésus, ça n'a pas été mentionné. Alors, que ferons-nous ? Que ferons-nous, nous qui sommes ici ? Eh bien, la Pentecôte est à portée de main. Nous nous réclamons d'être pentecôtistes. La Pentecôte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a commencé à la Pentecôte. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, viens et vois. Si le réveil nous est refusé, c'est qu'une idole est encore adorée en cachette, ou plusieurs idoles. C'est que nous mettons notre confiance dans des plans humains. Nous refusons de croire à la vérité immuable de Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors les rencontres du mercredi, ils ont ce but, de chercher le réveil, ce qui est notre responsabilité. C'est un début prometteur actuellement, et je crois pouvoir dire que, avec d'autres membres qui participent à ces rencontres, que nos réunions de réveil commencent à porter des fruits, et on sent qu'elles sont de plus en plus animées par la présence du Saint-Esprit, qui se réjouit de l'attitude d'humilité des participants. Persévérons dans cette voie, en visant le réveil. De plus, nous nous apprêtons à inaugurer un local qui est en bas, qui est en instance de finition, qui s'appelle une maison de prière. Cette maison de prière aura un nom, c'est le nom de cette ville, Elisheva. Elisheva, c'est le nom hébreu d'Élisabeth, qui veut dire « Dieu est ma demeure ». C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que Dieu a voulu que cette église existe. Non pas pour l'église, qu'on soit bien entre nous, qu'on s'entende bien, c'est super ça. Mais c'est pour que Dieu puisse faire sa demeure ici. Que Dieu puisse demeurer ici. Et ce sera, entre autres, aussi ce projet qui va s'inspirer d'un autre projet qui est le tiers ordre protestant, s'appelle les Veilleurs, association de fidèles qui s'engage à prier sur une base régulière, qui a été créé par Wilfried Monod et son fils Théodore Monod. Et je ne pense pas qu'il y ait de hasard, c'est que les Monod ont un château là-haut, et c'est de cette famille Monod qu'il s'agit. Il y a 150 ans, ce pasteur a créé cette vision des Veilleurs qui s'engage à prier tous les jours pour l'œuvre de Dieu. Persévérons donc dans cette voie. Nous voulons ici avoir la contrepartie du réveil morave, devenir un vecteur formidable pour envoyer des vocations dans la mission. Sommes-nous prêts pour ce défi ? Après tout, nous nous réclamons être pentecôtistes, mais est-ce que nous le sommes ? Qu'attendons-nous pour suivre la voie de nos aînés de la Pentecôte ? Rien n'est impossible à Dieu, ni à ses enfants qui placent leur confiance en lui et qui sont déterminés à se séparer de leurs idoles pour glorifier leur maître. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas changé. Nous sommes changeants. Seigneur, nous sommes versatiles, nous sommes humains et pécheurs, même si nous sommes sauvés par grâce. Mais toi, Seigneur, tu as un plan. Et ce plan, tu l'as déployé à la Pentecôte lorsque tu as dit à tes disciples, « Attendez ici ». Ils l'ont fait dans la prière, ils l'ont fait en attendant la venue du Saint-Esprit. Et il est venu. Et Seigneur, il vient à chaque fois lorsque nous sommes dans la prière. Je te prie pour que cette assemblée ici puisse reconnaître la vocation qui est la sienne. C'est de porter ici, dans ce lieu, la présence, la demeure de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs et puisse attirer une foultitude de monde. Seigneur, tu n'es pas limité par le rationalisme des Français. Tu es limité par notre consécration, par notre désir, Seigneur, de te laisser pleinement nos vies. Seigneur, aide-nous à enlever tout contrôle qui est tellement, tellement présent dans notre vie naturelle pour contrôler les choses. Seigneur, c'est toi qui dois être en contrôle. Et c'est quand toi tu es en contrôle, quand ton esprit est libre d'agir, eh bien que tu fais ton œuvre à toi. Que tu attires des hommes de toute langue, de toute race. Et dans cette région, il y a énormément de gens différents, mais tu vas les attirer par des cordages d'amour et tu vas les faire entrer dans ton royaume. Seigneur, donne-nous d'avoir cette vision et surtout la persévérance, Seigneur, de poursuivre cette mission. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.